السلام عليكم كتار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو فوت انترناسيونال
من قطر.
أني غاسني.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International du Café des Sports, un peu spécial aujourd'hui évidemment à cause de l'actualité et qui referme une semaine très animée avec une victoire des Lions indomptables sur les Brésiliens. Et oui, un but formidable de Vincent Aboubakar, mais une victoire qui ne les projette malheureusement pas en 8e de finale, ces Lions du Cameroun, décidément. En tout cas, le Cameroun ne réussit pas souvent au Brésil dans les grandes compétitions lorsqu'ils se croisent. Ce sont le Brésil et la Suisse qui passent et ça donnera Brésil-Corée et Portugal-Suisse en 8e de finale. Semblable coup de théâtre dans le groupe H cet après-midi où la Corée du Sud a rejoint le Portugal et les huitièmes de finale grâce à sa victoire sur l'équipe de Cristiano Ronaldo. Pour les Uruguayens, une victoire sur les Black Stars, inutile pour sauver l'honneur car Uruguay et Ghana quittent la compétition. Un regard aussi, nous le poserons sur deux des matchs du week-end que vous pourrez suivre sur RFI, Angleterre-Sénégal et France-Pologne. Quelles sont les chances des Lions, de la Teranga et des Bleus? Eh bien, nous en parlerons avec nos invités. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie et bonjour
bonsoir,
à tous.
Bonsoir, je dirais plutôt d'ailleurs, hein, vu l'heure tardive.
Oui.
Ici à Paris et ailleurs, voilà. Au Qatar et ailleurs.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous les téléspectateurs ou les auditeurs, voulais-je dire.
Alors, vous êtes là et évidemment, qui est là, eh bien, c'est aussi votre pendant, Xavier Barré, de
oui,
l'autre côté de la table.
Bonsoir Annie, salut Rémi, bonsoir à tous. Bravo aux Camerounais, j'avoue, je suis vraiment très agréablement surpris par cette performance ce soir.
Et puis, Franck Simon est notre invité, notre visiteur du soir, le troisième. Bonsoir Franck.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Je suis un peu l'invité surprise, hein. J'ai pas l'habitude. Je vais pas faire l'arbitre entre Xavier
et
Rémi, vu que je pense qu'ils sont d'accord sur ce qu'on a vu ce
on
soir.
On aura plein de choses à se dire ce soir et ça sera très intéressant. Excusez-nous, mais ce soir, nous ne sommes ni en Facebook Live, ni sur France 24. Nous sommes dans la chaleur de notre studio radio, tout simplement, de Radio Foot International et de ce Café des Sports. Le Café des Sports, donc, les débats sont ouverts. Laurent Salerno est le maestro à la réalisation ce soir.
Le but pour vous faire mentir sur ce centre de Gomme. Sur ce centre de Gomme, le but camerounais. Incroyable.
Il est venu de loin ce centre, il était tout seul Vincent Aboubakar, tout seul au point de pénalty, il a eu le temps de s'appliquer pour cette tête, il l'a piqué au premier poteau, rien à faire pour Ederson, et voilà Vincent Aboubakar qui vient mettre le Cameroun devant en inscrivant son 34e but en sélection à 30 ans, c'est carré.
Le Cameroun, décidément bête noire du Brésil, indomptable les Lions de Rigobert Song qui ont créé l'exploit en battant l'un des favoris de la compétition par un but à zéro. Les Brésiliens baissaient la tête en fin de partie, un peu déçus bien sûr cette équipe B qu'avait aligné Tite ce soir sans ses grandes stars, mais ils restent premiers de leur groupe et sont donc bien sûr en huitième de finale. À Yaoundé, en tout cas, on a dû relever la tête. Vous avez entendu des cris de la victoire et c'est une victoire pour l'honneur mais qui doit faire chaud au cœur. Nous avons au milieu de la foule d'une fan zone du côté d'Yaoundé Amélie Beaucourt de RFI. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors Amélie, vous avez dû passer une soirée un peu folle. Racontez-nous ce qui s'est passé de vous au moment de ce but qui est intervenu en toute fin de partie.
Ah bah, la tension a été énorme
pendant tout le match, Annie, j'ai choisi d'aller le voir dans la fan zone qui est devant l'hôtel de ville de Yaoundé. Il devait y avoir entre 2000 et 3000 personnes. La tension était à son comble pendant 90 minutes. Et là, grosse ironie du sort, je suis désolée de vous décevoir, mais l'écran s'est coupé au moment même du but. Et il n'y a que quand certains supporters se sont mis à crier au fond, ils devaient avoir reçu une notification sur leur téléphone portable, qu'on a compris que le Cameroun avait enfin ouvert le score. Et quand l'écran s'est rallumé, on a découvert le carton rouge brandi sur le torse d'Aboubakar, mais c'est quand même des tonnerres de joie et d'applaudissements qui ont retenti, et c'est avec le sourire qu'ils ont terminé le visionnage de ce match. Donc finalement, il y a beaucoup de déceptions, mais un énorme sourire sur les lèvres de tous les Camerounais qui sont sortis de cette fan zone et qui klaxonnent encore dans les rues, malgré tout.
Oui, donc malgré l'élimination, c'est la victoire et ça sera sans doute la fête dans les rues de Yaoundé ce soir. C'est ça votre sentiment ?
Ça va exactement, c'est ça. Ça va exactement être la fête. Hein. C'est ce que me disaient certains supporters. Finalement, le Cameroun a réussi à battre le Brésil, ce qui était un exploit, et c'est ce que tout le monde retient ici. Hein. Le Brésil qui n'avait pas réussi à battre une équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Et donc, c'est ici une victoire, la finale avant la finale, comme ils disent. Et leur Aboubakar à bouche. Chouchou, comme il est surnommé ici, est maintenant crié dans toutes les rues.
Oui, Vincent Aboubakar, c'était déjà le héros de la finale de la CAN en 2017, lorsque le Cameroun l'avait emporté face à l'Égypte. On va écouter un des supporters que vous avez rencontré tout à l'heure. Il s'appelle Lucien et il était ravi, heureux, content du but vainqueur face aux Brésiliens.
Et c'est incroyable. Le Cameroun, lui, vient de jouer sa véritable finale de la Coupe du Monde. Battre le Brésil, après que le Brésil ait toujours battu toutes les équipes africaines. Pendant les récentes rencontres, le Cameroun a prouvé par là sa solidarité, sa solidité au niveau du football mondial aujourd'hui. Et nous sommes heureux, malgré le fait que nous soyons éliminés, mais avoir battu le Brésil, champion du monde numéro 1 mondial au niveau du football mondial. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, malgré notre défaite, malgré le fait que nous ne soyons pas qualifiés à la Coupe du Monde.
C'est vrai que c'est sortir la tête haute. Et on vous laisse faire la fête avec les Camerounais du côté de Yaoundé. Merci beaucoup, Amélie Beaucourt.
Merci. Bon, on va continuer à faire la fête de notre côté, Annie. Merci beaucoup.
Vous nous raconterez à votre tour. Merci beaucoup. Vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. Rémi, qu'avez-vous ressenti ? On vous a vu. Alors, on a vu le match ensemble hein, ici à RFI. On vous a vu sauter comme un clown de sa boîte, là, hurler devant le poste de télé. Est-ce que vous avez douté, Rémi ?
J'ai douté, mais j'avais confiance. J'avais confiance parce que, justement, j'ai vu que cette équipe des Lions Indomptables avait retrouvé une certaine foi avec Rigobert Song. Mais l'histoire nous montrait malheureusement que le Brésil était notre bête noire. Et c'est pour cela que...
En Coupe du Monde, hein, vous en étiez sur deux défaites, 2014 et 1994.
Et quelle qualité de défaite ! Le problème, c'est que nous sommes humiliés quasiment parce qu'en 1994, on a quand même une assez bonne équipe. On a fait une bonne préparation et on se retrouve quand même avec 3-0. Et puis, on se dit quand même que...
Romario, hein, à l'époque.
Voilà, ça a été très difficile. Et là, on s'est retrouvé en 2014 avec quand même une équipe du Cameroun qui avait des joueurs évoluant dans de très grands clubs, de grands attaquants. On avait une défense qu'on croyait un peu stable. Et là encore, on a ramassé un bon 4-1.
Oui, avec Neymar notamment qui était voilà. À ses débuts. Hein,
et surtout, quelle qualité d'humiliation. Parce que, justement, le Cameroun avait réussi à marquer ce but-là sur le seul tir cadré. Or là, quand vous regardez cette équipe du Cameroun, qui certes n'a pas eu la possession, mais a été tranchante en ce qui concerne certaines transitions, et aurait d'ailleurs pu marquer un certain nombre de buts, peut-être deux fois, mais surtout aussi, il y a autre chose qui ressort de cette sélection du Cameroun, c'est que vous allez constater que, pour une fois, on a un national, quelqu'un qui sort de notre championnat, et qui joue à PGS d'un fou. Un jeune comme ça, que Rigobert Song a accepté de jeter dans l'arène. Il est parti, il a eu de la fougue. Non seulement il avait cette dextérité, cette mobilité, mais un centre au millimètre, au cordeau, et qui atterrit sur la tête d'Aboubakar Vincent. Ce qui veut dire que, justement en 90, quand le Cameroun a fait certains exploits, c'était avec des joueurs qu'on avait d'abord découverts sur le terroir, donc au Mambiïque et Canabiïque, qui vont essayer de donner quelque chose. Aujourd'hui, on a vu cela, mais aussi c'est la victoire de la jeunesse dans la mesure où on a pu constater aujourd'hui une bonne charnière centrale qui a tenu avec, bien évidemment, deux jeunes.
On va y revenir, Rémi. Je le dis pour nos auditeurs, puisqu'aujourd'hui, on ne vous voit pas. Vous avez un magnifique maillot vert. Alors, ce n'est pas la nouvelle formule, c'est encore celui du Club Sportif, mais vous avez des très belles couleurs et Qatar sur la manche. Franck Simon, comment vous avez vécu, vous, ce... Alors, vécu, je sais que vous étiez bien du côté des Lions, mais en tout cas...
C'est peu dire, c'est peu dire.
On le sait, mais comment vous avez... Est-ce que vous l'avez vu, finalement, arriver, cette victoire? Parce que les Brésiliens, ils se sont casser le nez sans arrêt, notamment sur Epassi.
En fait, c'est un match longtemps à sens unique. Et effectivement, le Brésil, ce Brésil-là, ce n'est pas l'équipe type, hein, mais c'est une équipe quand même de grande qualité, s'est cassé le nez sur la défense. Alors, Rémi l'a dit, notamment sur Christopher Wu, que j'ai trouvé exceptionnel, et puis sur ce gardien, Davis Epassi. J'aurais du mal à rester insensible parce que c'est le fils d'un de mes amis, je le connais bien, Davis. Beaucoup d'émotions, en fait, à le voir multiplier les parades, les arrêts aussi. C'est lui qui a retardé l'échéance. Et moi, très honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de trop gourmand, je me serais contenté d'un nul. Mais comme l'a dit Rémi, il y a eu ce jeune garçon, Jérôme Gomme, qui est allé dans son couloir, qui est entré dans le dernier quart d'heure, qui a délivré un centre magnifique. Et puis Aboubakar, on connaît sa qualité dans le jeu de tête. Dans la course.
Ouais, Vincent Aboubakar.
Ce que je regrette, c'est qu'il ait quitté ses coéquipiers beaucoup trop tôt. Bêtise, erreur hein, de sa part d'avoir célébré.
Voilà. Ouais. Expliquons-le.
Il a pris un carton jaune
dans le match et malheureusement, au moment du but, il est tellement heureux qu'il nous montre ses beaux muscles.
Ouais, il enlève le maillot.
C'est qu'en enlevant son maillot, l'arbitre n'a pas le choix, autrement le choix, que de lui mettre un carton jaune, ce qui en fait deux.
Ouais.
Et les quelques minutes s'écoulent sans lui. Carton rouge sans conséquence puisque
ils ont bien défendu, sans lui.
C'est dommage quand même.
Parce que le carton qu'il prend, le premier carton, c'est en défendant en fait. Mm-hmm. Il vient compenser l'absence de nous, Tolo, tu te souviens Rémi, hein,
il est parti à l'abordage.
C'est lui qui vient travailler et il est obligé de commettre la faute pour empêcher l'attaquant brésilien d'aller dans la surface, éventuellement de marquer. Mais bravo à ces Lions indomptables. On regrette que le réveil soit intervenu tardivement.
Voilà.
Et on regrette les points, notamment peut-être d'avoir lâché quelque chose contre la Suisse.
Sans doute. On a vu hein, le président Samuel Eto'o, évidemment très heureux dans les tribunes et être congratulé par les gens qui l'entouraient, mais malheureusement, ça ne signifiait pas non plus la qualification. Xavier Barret, est-ce que c'est un gros coup? On pense à la France, qui elle aussi fait partie des équipes favorites et qui a été battue sur son troisième match par la Tunisie. Pareil, Didier Deschamps avait mis une équipe B ou C. En l'occurrence, Tite avait fait pareil. Est-ce que, selon vous, c'est un gros coup contre le Brésil et pour le Cameroun ou...
Clairement, pour le Cameroun, c'est formidable. C'est formidable parce que non seulement bon, ils ont été copieusement dominés, hein, 65% de possession pour le Brésil, 21 frappes dont 7 cadrées, il ne marque pas un but.
Oui, ça veut dire 7
arrêts de Davis Epassi. Ouais. Et à l'arrivée, il y a ce but de Vincent Aboubakar. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'on nous disait, vous comprenez Vincent Aboubakar et Eric Maxime Choupo-Moting, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Et puis en plus, vous mettez des attaquants, vous mettez Ngamaleu, vous mettez Mbemo en plus, 4 attaquants, mais c'est impossible, c'est pas possible, jamais le Cameroun ne pourra jouer contre le Brésil de cette manière. Eh ben si, et ils ont gagné. Donc pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? C'est ça que je regrette, moi.
Voilà.
C'est ça que je regrette. On a vu un Cameroun jouer petit bras parce qu'on calculait machin, etc. Contre la Suisse, contre
ils ont pas osé.
Du temps contre la Serbie.
Et
finalement,
dans la compétition,
contre l'adversaire le plus relevé, même si c'était pas tous les titulaires qui étaient là, contre l'adversaire le plus relevé, contre l'adversaire contre lequel on leur donnait presque aucune chance, là ils se lâchent, là ils osent et là ils gagnent. Voilà.
Vous vous souvenez, Xavier, de la phrase de Vincent Aboubakar qui nous avait fait un peu tous rire et on s'était un peu tous moqué quand il avait dit « Moi j'ai pas peur du Brésil ». Vous vous souvenez,
ouais, on l'a vu ce soir.
On l'a vu.
Il a pas démérité. Voilà.
C'est vrai,
c'est lui qui les a plombés. Hein.
Et on comprend sa joie d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une bêtise d'enlever son maillot. Mais il y pense pas, je pense. Il est tellement heureux.
C'est une émotion exceptionnelle.
probablement sa dernière Coupe du Monde, même si parfois on sait que Roger Milla a joué jusqu'à 42 ans. Bon, il en a déjà 30 au moins. Bon... Et il marque ce but contre le Brésil. Il rentre dans l'histoire du football mondial.
Surtout, surtout, ce que je voudrais signaler, c'est que Vincent Aboubakar, que moi-même j'ai souvent beaucoup critiqué, je dois aujourd'hui le féliciter par rapport à certaines statistiques. Est-ce que vous savez que Vincent Aboubakar est à 40 buts, c'est-à-dire au-dessus de Roger Milla? Qui pouvait imaginer ça? Oui, il est le deuxième buteur après Samuel Eto'o actuellement, dans les Lions et Notables. Et surtout... Comme vous voyez, il s'est sacrifié par rapport à ce match-là. Donc, lui qui joue quand même dans un championnat où, d'ailleurs, depuis octobre, il n'a pas été en compétition. Mais on n'a pas vu qu'il déméritait par rapport à certains autres. Mais aussi, au-delà de ça, il faut féliciter quelqu'un que vous avez cité tout de suite, et Passy. Parce que vous vous rendez quand même compte que voilà un gardien de but, que tout le monde disait être le plus nul. Et que tout le monde est d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas si c'était le plus nul, mais rappelons qu'il avait 6 sélections jusqu'à ce match. Donc, ça ne faisait pas franchement beaucoup. Quoi.
Oui, ça ne faisait pas beaucoup. Mais en même temps, il faut savoir que l'histoire du Cameroun montre que parfois, ouais, les gardiens, oui, qu'on attend, ce n'est pas eux qui réalisent ça. Vous voyez, par
et
exemple,
Thomas Kono,
justement, en 90, qui n'était pas attendu et qui est arrivé là et qui a fait ceci et cela. Et vous vous rendez compte quand même que c'est ce David Sepassi-là qui sauve le Cameroun dès la 18e minute, avec justement Martinelli qui claque un premier tir qu'il va renvoyer. Ça va rassurer la défense. Et d'ailleurs, à la 37e minute, c'est encore David Sepassi. À la 45e minute, encore c'est David Sepassi qui se retrouve quand même là. Sans pour autant oublier que entre la 52e et la 58e minute, il fait un festival de 4 interventions. Il va même se sacrifier jusqu'à se mettre une tête au niveau de son poteau. À la 90e minute, il fait encore une parade à la Thomas Nkono.
Tout le match,
en 90, là, il n'a pas pris de but contre le Brésil. David Sepassi, c'est Thomas Nkono aujourd'hui. David Sepassi, c'est l'araignée noire. David Sepassi, c'est le meilleur gardien de tous les temps. David Sepassi.
Merci. Très bien, on a compris. Donc voilà, pour ce qui est de cette victoire donc des Lions indomptables sur leur troisième match, malheureusement, ils ne sont pas qualifiés, mais en tout cas, ils ont fait un sacré match et une sacrée prouesse en battant le Brésil. Notons, coup de chapeau quand même en face, Dani Alves, le latéral.
Le papy Alves.
39 ans, 6 mois et 27 jours, c'est le plus vieux titulaire. Et il était capitaine d'ailleurs d'une équipe en Coupe du Monde.
Et il jouait contre ses fils qui étaient justement, par exemple, Christopher Wall, 21 ans. Ouais. Et justement aussi, comme on peut le voir, Ebossé, 23 ans. Et je devrais aussi féliciter donc Rigobert, même si au début il n'a pas été très bon par rapport à ça, pour tout simplement dire qu'au moins, lui-même, il avait commencé la Coupe du Monde. Il avait 17 ans et 258 jours. Et c'était contre le Brésil. Mais sauf que lui, il avait eu le carton rouge.
Décidément, il y a toujours un carton rouge dans l'histoire. À noter que le Brésil, c'est une statistique que donnait tout à l'heure Olivier Pron durant la retransmission, 112 matchs de Coupe du Monde et seulement 18 défaites. Eh bien, il y en aura une contre le Cameroun. Dans l'autre match, pendant ce temps-là, ce qui a empêché le Cameroun d'être qualifié, eh bien, c'est la Suisse qui s'est imposée face à la Serbie sur le score de 3-2, mais un match où il y a eu une très chaude ambiance et où ça a chauffé par moments, mais finalement donc la Suisse s'impose et c'est elle qui est qualifiée avec le Brésil pour la suite de la compétition.
On peut juste rappeler, Annie, pour nos auditeurs, qu'il y avait un gros antagonisme entre les Suisses et les Serbes, et surtout entre les Suisses originaires du Kosovo, puisqu'il y a eu un conflit sanglant dans cette région. Et déjà il y a 4 ans, ils étaient dans le même groupe avec le Brésil d'ailleurs, en Russie, et les Suisses d'origine kosovare, en l'occurrence Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, qui s'étaient illustrés, ils avaient fait le signe de l'aigle avec leurs mains, comme ça, un peu comme un papillon.
Le fameux ce qui, sur le drapeau.
Qui est sur le drapeau de l'Albanie, qui est, le Kosovo est historiquement une région plus albanaise, et donc ça avait été considéré comme une provocation, et la FIFA les avait sanctionnés. Et donc il y avait toujours cet antagonisme traumatisme entre Serbes et Suisses d'origine kosovare. Ils se sont retrouvés face à face. En plus, c'est Shaqiri qui ouvre le score et qui, cette fois-ci, n'a pas fait le signe pour ne pas être sanctionné, mais qui a bien montré son maillot. Ouais. Derrière, les Serbes marquent deux fois. Et là, on voit encore de la défiance dans leur regard. Entre... Et puis, à un moment, effectivement, au cours de la deuxième période, à un moment, c'est parti entre Xhaka et Mitrovic parce qu'il y a effectivement cet antagonisme. Ouais. Pour nos plus jeunes téléspectateurs, auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette page de l'histoire européenne et effectivement, on préférerait l'oublier. Il y a 30 ans, il y a eu un conflit sanglant dans l'ex-Yougoslavie et malheureusement, beaucoup de morts dans cette région du globe.
Et malheureusement, parfois, ça s'invite autour du ballon rond. On continue parce qu'il y a eu aussi un autre coup de théâtre. C'était au cours de l'après-midi et c'était dans un autre groupe.
La pelota para Pellistri, este a Núñez, este para Suárez, que bueno, entró de la caeta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Pintalo! ¡Colgalo! ¡De la caeta!
¡Ya, Portugal, con los kicks, Nante, Munjonuro, Pepe, Bolívar!
¡Suárez, Surumir, Dimita! ¡Surumir, Dimita! ¡Ante, Frío! ¡Ante!
¡Ya, Pante, Hongichang, Dalio, Bolívar!
Corea dos tantos contra uno, los descuentos, el gol coreano. Ártico dejó el medio, va para Kudus, 2 a 0 con Uruguay, corre Cavani, sacó Vecino, sin falta notable. Vecino está solo, no tiene compañía. La tiene el Mati, por derecha, por el quinto, por el River argentino. Ay, tengo miedo, ¿gol de quién?
Gol de Corea.
No, gol de Corea. Gol de Corea. Estamos quedando afuera ahora,
Et Luis Suárez a pleuré, tout simplement, sous les rires,
même
sous cap de milliers de Ghanéens et sans doute de milliers ou millions d'Africains, car vous vous en souvenez, en 2010, c'est une main, la main de Luis Suárez qui avait fait pleurer tout un continent. Le Ghana ne pouvait disputer une demi-finale de sa Coupe du Monde, celle organisée en Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui, eh bien, le Ghana a été battu par cet Uruguay qui s'est réveillé, qui l'a emporté sur le score de 2 à 0. Mais comme en même temps, eh bien, la Corée battait le Portugal, voilà que cette équipe uruguayenne est sortie dépitée. Écoutez le double buteur de la Céleste et Georgian Aracaeta.
Injusto.
C'est injuste.
Totalmente injusto.
Totalement injuste. En effet, aujourd'hui, on a tout fait pour faire ce pas et être qualifié. Mais bon, ça n'a pas été possible et en vérité, on est triste. On avait tout donné dans ce match. Et on cherchait vraiment la victoire. Mais bon, c'est un résultat qui ne dépendait pas de nous-mêmes. Bon, la décision de l'arbitre était douteuse. Bon, comme ça, à chaud, il faudrait analyser après cette action, après le match. Mais bon, il faut tourner la page maintenant. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et maintenant, il n'y a rien d'autre à faire.
Xavier, lo que pasó, pasó. Pourquoi parle-t-il d'injustice?
Moi, j'ai eu la chance de commenter le match ici avec
Sofiane Damasian et Cédric de Oliveira.
Mmh. Et donc, c'est vrai que quand on regarde le match, l'Uruguay a très bien joué. Ils ont très bien joué. Ils ont effectivement ce pénalty, ce tournant très tôt dans le match avec ce pénalty manqué par André Ayou, ou plutôt arrêté par le gardien Sergio Rochette. Mais derrière, ils marquent deux buts, donc par Georgian de Arrasqueta. Et ensuite, il y a une ou deux actions litigieuses à la limite de la surface de réparation sur le très remuant Darwin Núñez qui ne sont pas sifflées. Et ensuite, il y a un pénalty. Et curieusement, cette même faute, elle a été sifflée. Là, elle est revisionnée et l'arbitre allemand décide de ne pas accorder le pénalty. Donc, c'est assez incompréhensible. C'est complètement incompréhensible pour les Uruguayens. C'est pour ça qu'ils crient à l'injustice. Parce qu'effectivement, avec un but supplémentaire, à ce moment-là, ils auraient terminé devant la Corée du Sud au classement à la différence de but. Donc, ils ont de bonnes raisons, effectivement, de créer à l'injustice parce que franchement, là, il y avait pénalty et on ne comprend pas pourquoi l'arbitre ne l'a pas... Après, c'est de l'interprétation, je suis d'accord, mais on fait venir la vidéo, l'assistance vidéo, et finalement, il dit non.
Mais c'est surtout qu'un but en plus les aurait qualifiés. C'est
absolument,
ça qui est important
à
dire.
Hein, c'est
s'ils avaient gagné 3-0. En tout cas, Diego Godin, parce que leur premier match contre la Corée, d'ailleurs, avait été très difficile et s'était terminé par 0-0. Peut-être là avait-il déjà perdu un peu pied. Diego Godin a dit, pourtant, hein, on a progressé à chaque match. On a vu donc que ces Sud-Américains, eh bien, eux aussi ont été sortis. Il n'en reste plus que deux désormais dans la compétition, Brésil et Argentine, comme si souvent. Des regrets aussi, Franck Simon, pour les Black Stars, parce qu'on a eu l'impression quand même qu'elles ne se sont pas assez battues.
C'est peu dire. dans ce dernier match, c'est un match où tu dois tout donner, tu dois faire... Enfin, Le Cameroun, s'il avait joué juste avant le Ghana, avait donné la recette, la marche à suivre. Et ils n'ont pas respecté le plan de jeu, ils n'ont pas respecté les valeurs, les condiments, les ingrédients qu'on doit mettre dans la marmite pour aller chercher un résultat. Je suis extrêmement déçu par le comportement collectif de cette équipe ghanéenne qui avait quand même gagné entre-temps et très difficilement contre la Corée. C'est un succès. C'est un succès vraiment...
arraché.
Oui. Et la Corée,
c'était arraché pour le...
Et la Corée, peut s'estimer aussi, non pas lésée, mais s'il y a match nul au bout, ça n'aurait pas été choquant. Ils ont bien joué les Coréens ce soir-là, mais j'étais aussi ici au micro de RFI quand ils ont gagné ce match. Ce n'est pas ce qu'on attendait dans ce dernier match. Après, sur l'ensemble de la compétition, j'attendais absolument rien du Ghana. C'est pour ça que le match qu'ils font contre le Portugal, où ils perdent 3-2 avec un arbitre, et c'est d'ailleurs qui a arbitré le match Cameroun-Brésil, Elfat, c'est une défaite pour moi qui n'avait pas le goût de défaite. Il y a victoire contre la Corée, et là en revanche c'est un zéro pointé sur l'ensemble de la rencontre.
Il y a surtout eu encore un clin d'œil à ce fameux match du passé de 2010, c'est ce pénalty accordé en début de partie au Ghana et manqué par André Ayew. On dirait que franchement quand
qu'il rescapé en plus lui de 2010, moi j'y étais. Oui, le seul. J'y étais à ce match, si vous voulez vous remuez le couteau dans la plaie là.
Mais c'est surtout les Black Stars, on a l'impression qu'il faut plus qu'on leur donne de pénalty face à l'Uruguay, qu'ils n'y arriveront jamais. Rémi, ces Black Stars, elles sortent c'est dommage parce que en fait au bout du deuxième match, on y a cru, on les voyait déjà en demi-finale. En huitième. Déjà oui.
Non, je crois quand même que le Ghana n'a pas beaucoup démérité. Il faut savoir que c'est une équipe qu'on n'attendait pas. Parce que déjà, même au classement FIFA, le Ghana, c'est 60e avant cette compétition. Et maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle souvent les mauvaises habitudes. Parce que quand vous regardez le pénalty d'André Ayew, vous dites que c'est arrêté, ce n'est pas arrêté.
C'est très mal tiré quand même.
Mais il prend...
ok, le gardien fait son travail.
Il prend justement ce qu'on appelle une sorte d'échappement à la façon de mon grand-père. Et puis, il a un pied mollasson plus mou que le coton-tige. C'est à peine incroyable. C'est
qui vient
avec une famine. Mais il fallait voir, il a mis toute l'énergie pour saluer Suarez en sortant les yeux. J'ai cru qu'il allait manger les gens pendant ce match-là. Il arrive finalement, il n'a pas de pied, mais ce n'est pas possible. Le Ghana, c'est trop quand même. Deux pénaltys comme ça, là. Vous ratez ça. Et pourtant, c'est lui qui dit, on va voir ce qu'on va voir. On va faire ce qu'on va faire.
Rochelle...
Mais chaque fois qu'il y a des grands pénaltys, des grands moments, eh bien, Ayew fait toujours ce qu'il fait.
C'était
là.
Un début de match.
On peut soigner la blessure, mais on ne soigne jamais la mauvaise réputation, dit un proverbe africain.
Mais Rochette a fait des super interventions par la suite. Là, effectivement, ça, c'était un coup de pied qui est manqué, mais derrière, je trouve qu'il a fait les parades qu'il fallait.
Rejoins un peu Rémy Nguono pour une fois sur cette génération ghanéenne qui finalement n'aura rien gagné. C'est une génération ghanéenne qui était très promotée.
Belges, on peut penser
c'est
à d'autres.
C'est pas une génération, hein, c'est un mélange, c'est un alliage. Hein,
oui, mais
c'est t'as Koudous, t'as des jeunes, t'as les Samed.
Ils ont été champions du monde des 20 ans en 2009.
Oui.
On en a retrouvé un certain nombre dans l'équipe qui va en quart de finale 2010, de la Coupe du Monde 2010. Et après cette Coupe du Monde 2010, ils vont en 2014.
Et d'ailleurs, ceux qui ont été champions, c'est eux qui ont raté les pénaltys contre justement l'Uruguay. En Afrique du Sud.
Oui, aussi. Là,
justement, vous rendez compte,
en Coupe d'Afrique des Nations,
le meilleur au niveau de cette Coupe du Monde là, il a raté son pénalty. Donc on ne peut pas, parce que justement l'Uruguay passe au pénalty. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas soigner une équipe dont la seule maladie, la seule épidémie, la seule pandémie, c'est les pénaltys.
Donc
Ghana meurt toujours dessus des pénaltys. Mais c'est pas possible.
C'est vrai que c'est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations aussi où ils en manquent un.
Contre la
Côte d'Ivoire. Donc il y a une espèce de malédiction qui tombe sur le Ghana ces dernières années. Et c'est regrettable parce qu'effectivement, c'est un pays qui plutôt sort des bons joueurs, des bons footballeurs.
Bah, coup douce, et, hein, qui est une des révélations quand même.
Qui n'arrive jamais à gagner. Voilà.
Otto Addo, à la fin de ce match, a dit ce qui nous fait le plus mal, c'est évidemment le fait qu'on soit éliminé. Je sais que le public voulait une revanche, mais je ne crois pas à cela. On ne cherchait pas de revanche, on cherchait juste à gagner ce match. Et il a ajouté, Otto Addo, qu'il arrêtait après le mondial, que c'était clair pour lui. Ouais, ma famille et moi voyons notre futur en Allemagne. J'aime mon rôle à Dortmund, même si nous avions été champions du monde, cela aurait été la fin.
Il a donc confirmé,
confirmé
ce qu'il avait dit avant, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour durer, que c'était une sorte
d'intérim. On l'avait appelé un peu au secours.
C'est dommage.
On l'avait appelé au secours.
Peut-être que le costume était
trop... Oui, il avait osé
trop...
des choses.
Il a osé quelque chose, je trouve, au niveau, au niveau de la composition de sa sélection, des choix. Il a changé. Il avait quand même que sur les 28 Black Stars qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'en avait que 13. Donc, il avait considérablement renouvelé le groupe.
Enfin, tu mets Inaki Williams, il n'a rien fait des trois matchs. Bah, tu le mets en point, tu le sors jamais.
T'avais
qui
comme en centre?
Non, mais...
T'avais personne.
Il y avait d'autres. En tout cas, il s'agit du troisième sélectionneur pour l'instant dans cette Coupe du Monde à arrêter.
Oui, Roberto Martinez.
Voilà, Roberto Martinez de la Belgique et Tata Martinez, autre Martinez.
Martino.
Ouais.
Gerardo, c'est à peu près la même Tata chose.
Lui, c'était avec le Mexique, mais c'est un Argentin. On est dans les latins. On est chez les latins.
Dans les Martins. En tout cas, les Martins.
Voilà.
Martino. Mais où notre Martin lui reste.
Ah oui. Martinez.
En tout cas. Voilà pour ce qui est donc des équipes qui sont sorties et il ne restera donc dans la suite de la compétition que deux équipes africaines. Mais quelles équipes ! Allez, on se projette, nous, sur deux de ces huitièmes de finale du week-end.
Let's go ! Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar.
Tout le monde chante ça dans les stades de la Coupe du Monde parce que c'est l'hymne et c'est un de ceux qui est le plus chanté du côté de Doha, n'est-ce pas, Laurent Salerno? Alors, pour ce qui est de ces huitièmes de finale, samedi, il y aura Pays-Bas, États-Unis, ça sera à 15h en temps universel, et Argentine, Australie à 19h en temps universel. Et on vous laissera le temps de les regarder sur vos écrans préférés ou les écouter quelque part. RFI retransmettra par contre demain. Et ça sera dimanche après-midi, France-Pologne à 15h TU et Angleterre-Sénégal. Allez, on commence dans l'ordre chronologique. Les Bleus face aux Polonais. Alors, on leur donne peu de chance à ces Polonais de l'emporter. Le sélectionneur de la Pologne est-il un bon tacticien? C'est ce qu'on peut lire sur certains réseaux sociaux. Que faut-il craindre de la Pologne, Xavier Barré?
Rien du tout.
Vous qui aimez les football exotiques.
Chesney.
Alors, Chesney, oui, pour ce qui est de la séance des tirs au but, ça risque d'être un problème.
Une
et lui, il a arrêté deux pénaltys, Rémi.
Il a déjà qualifié la Pologne, on peut le dire, puisqu'il a arrêté deux pénaltys, un contre l'Arabie Saoudite et un contre
l'Argentine.
C'est un gardien qui a encore.
Et jusqu'à l'Argentine, il avait encaissé aucun
but. Il s'inscrit dans la grande tradition. On parlait des gardiens camerounais, c'est la même chose en Pologne. Il y avait Jan Tomaszewski dans les années 70, comme le rappelle Franck Simon, qui était lui-même gardien de but, mais qui n'était pas polonais. Il y a eu Józef Mlinarczyk qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto. Il y a eu Jerzy Dudek qui l'a gagné lui avec Liverpool. Et donc maintenant,
il y a une très,
a
très belle école de gardiens.
C'est une grande tradition.
J'avais même oublié que Franck Simon avait été gardien.
Dans un autre siècle, Rémi.
Je
te moque pas. Dans un autre siècle.
Oh, Franck Simon.
Alors la Pologne,
voilà. Alors c'est une équipe. Quand on regarde l'équipe type, il y a 7
joueurs.
Quand
on a vu le match face à l'Argentine.
Oui, mais les autres, c'était à peu près pareil. Il y a 7 joueurs qui jouent en Italie. vous n'avez pas l'Italie à ce mondial, mais vous avez le football italien traditionnel avec la Pologne. Donc ça verrouille, ça bétonne, c'est pas beau, c'est vrai, mais ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc après, ils ont devant des joueurs de qualité. Je serais tenté de dire, c'est un peu comme le Cameroun. On fait jouer Lewandowski tout seul, mais quand on l'associe à Milik ou à Piontek, tout d'un coup, il marque des buts. Parce que bah, quand Lewandowski est tout seul, c'est compliqué.
C'est vrai que Milik n'était pas là contre l'Argentine.
Voilà, il allait jouer le match contre l'Arabie Saoudite et ils ont gagné 2-0. Donc voilà, ils ont un potentiel. Ils ont un entraîneur qui, en revanche, est extrêmement prudent, qui est connu pour être un bétonneur, un entraîneur hyper défensif. Donc pour le moment, ça leur réussit. Je pense que face à l'équipe de France, ça sera trop juste.
Mmh. Rémi, ça sera trop juste. Quelles sont les forces pour vous, les chances de l'équipe de France ?
Les chances de l'équipe de France sont multipliées par 1000.
Carrément.
Il faudrait que, pour que la Pologne batte la France, il faudrait d'abord qu'il y ait tremblement de terre.
Il y en a eu quelques-uns dans cette Coupe du Monde.
Ah non, mais j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait tremblement de terre, là-bas, au stade. Et comme ça, l'équipe de France, pendant qu'elle sera en train de pleurer, peut-être que Lewandowski va profiter pour marquer un but. Parce que cette équipe-là n'a pas de possibilité de se projeter, même dans la rapidité. Sur les sorties de ballon, ils ne savent pas le faire. Ils ont été pressés par l'Argentine de telle sorte que, dès la récupération, dès qu'ils avaient la balle, dans les 5 secondes qui suivaient, ils perdaient ça. Et on me dit, c'est des bétonneurs. Mais regardez cette équipe. Elle prend assez de buts.
Parlez-moi des bleus.
Ah, mais je dis bien que quand vous avez une équipe des bleus, où vous avez ne serait-ce que des virevoltants attaquants, tels que Mbappé, qui actuellement est très en forme, lorsque vous ajoutez encore un Dembélé, qui lui seul peut aplatir tous les vieux défenseurs polonais là, mais qui, il va les saouler, il va les rendre ivres comme des polonais. Bon, il est tout les... et par la suite, vous avez un appui qui sera là. Et actuellement, on Griezmann. Voit quand même que sur la retombée des autres ballons, on a quand même un Antoine Griezmann qui retrouve de la confiance. Ouais. Okay, franchement, je ne vois pas par comment et par quel trou de souris l'équipe de Pologne va réussir à s'en sortir. Elle se retrouve là par effraction comme une souris entre à l'église. Elle ne devrait pas être même là. La France est trop supérieure à la Pologne.
Après... Franck, peut-être qu'une faiblesse de l'équipe de France, c'est dans sa charnière centrale. On ne sait jamais trop.
Ça dépend effectivement qui,
de Varane,
qui, ce sera, hein, qui sera, quels sont associés. Les garçons qui seront associés dans ce secteur. Ouais, sur Varane, il y a des interrogations qui sont pas levées, hein. Mais pour ceux qui ont été là, c'est vrai qu'on a eu trois charnières différentes.
Hein,
Mais
Upamecano avec Konaté, avec Varane.
Ouais, mais Upamecano, Konaté, on a vu que ça fonctionne. Donc
mais Varane t'apporte une qualité de relance et de vision du jeu supérieure à Upamecano et
ouais, mais
et
dans quel,
ils
dans
sont
quel...
très bons tous les deux.
Non, mais Xavier, on est d'accord, c'est pas sur ça, mais on a quand même, on l'a vu en difficulté. On le met un deuxième match, on voit qu'il a souffert. Faut voir dans quel état il sera. C'est pas nous qui allons arbitrer ni faire les choix, mais moi je pense que le doute, il est pas vraiment là. Il y a pas de doute à avoir. On a en plus un carré devant qui a bien fonctionné. Parce que la véritable interrogation depuis le début, c'était pas la défense, c'était les quatre de devant. Ouais. Et on voit que ça a tourné. Même quand on a changé, on a interverti les gens. Donc,
pour clore le week-end, on aura donc le Sénégal face à l'Angleterre. Alors là, ça sera la fosse aux lions, hein, des lions, et ça risque de rugir. Qui rugira le dernier, Rémi Ngono ?
Je crois que...
L'Afrique rugira.
Les lions de la Teranga sont bien placés. Et je peux vous dire pourquoi. Parce que cette équipe, quand on la voit jouer, il y a une certaine assurance et il y a ce qu'on appelle des remodelages tactiques de la part de Aliou Cissé. Et ça surprend parce que, par exemple, lors du dernier match, il a sorti Diédou. Et qu'est-ce qu'il a mis maintenant ? Vous vous rendez compte que non seulement vous pouvez voir Ndiaye, qui a porté beaucoup de choses, non seulement entre le milieu de terrain et l'attaque, mais surtout, on a de l'autre côté quelqu'un quand même. On disait peut-être Watford, c'est pas très fort.
Ouais,
Ismaïla Sarr, quand vous le voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, il est le joueur le plus rapide de la Ligue 2 anglaise, et on voit comment est-ce qu'il est très, très, très à point. Donc, moi, je vois cette équipe-là, parce que justement, vous savez... Les Lions du Cameroun devaient battre les Lions, justement aussi, une équipe d'Angleterre qui avait les Gary Lineker et tout. Mais vous savez jusqu'où on est allé. Ouais. Donc, J'espère qu'ils vont nous venger.
Xavier.
La vengeance est mauvaise conseillère, Rémy Nguenaud. On l'a vu ce soir avec les Ghanéens notamment.
Tu n'aimes pas les films chinois. Hein.
Non, moi, c'est bien sûr, évidemment, le Sénégal a ses chances, mais l'Angleterre, c'est quand même un sacré morceau. Hein. Un sacré morceau. Et il suffit de regarder ce qu'ils ont fait lors de ce premier tour. Wow. Ouais, non, mais ils ont plié l'Iran 6-2.
Et l'Iran, c'est qui ?
Oui, d'accord. Après, ils ont fait 0-0 contre les États-Unis, mais on s'est rendu compte que cette équipe des États-Unis n'était pas si mauvaise que ça. Et ils finissent par un 3-0 contre le Pays de Galles. Donc, OK, c'est des adversaires probablement moins relevés que d'autres, mais ils ont assuré. Et surtout, ils ont pu gérer, ils ont pu faire tourner, impliquer tout le monde. On voit un Harry Kane qui est quand même très bon dans son jeu de remise. On voit que ça fuse sur les côtés avec Sterling lorsqu'il était dans le premier match, avec plutôt Foden dans le dernier, avec Saka aussi. C'est quand même une équipe qui a un vrai potentiel et surtout qui a une profondeur de banc très impressionnante.
Et puis qui avait fait un beau parcours en 2018, qui a confirmé à l'Euro en 2020 en étant finaliste en 2021. Donc elle est quand même toujours là, cette Angleterre. Franck, pour terminer.
Ouais, le Sénégal, il y a beaucoup de gens dans l'encadrement technique, compris Alou Cissé, et des joueurs qui sont passés ou évoluent actuellement en Première Ligue donc, et dans les championnats anglais. Donc, ils ont évidemment envie d'aller croquer les Three Lions. C'est un peu ce qui s'était passé avec l'équipe sénégalaise en 2002. Beaucoup évoluent en France. La deuxième chose, Annie, il faut rappeler qu'il y a eu 6 confrontations afro-anglaises en Coupe du Monde depuis 1986. 3 victoires par un seul but d'écart. C'était contre le Cameroun, la Tunisie et l'Égypte. Et 3 nuls contre le Nigeria, le Maroc et l'Algérie. J'ai envie que le Sénégal évacue tout ça.
Balaye
ça, casse la série, série anglaise. Ils sont toujours très sûrs d'eux quand ils jouent les équipes africaines. Mais là, ça ne sera pas le cas. Ils vont se faire...
Le Brésil, c'était la même chose.
Voilà. J'espère qu'ils ont regardé les Brésiliens.
La même chose. Et on a vu ce qui s'est passé ce soir. Les Lions sont là, ils ont des crocs. Mangez-moi ces Anglais-là.
Voilà. Un bon pudding d'anglais. Rémi, un pudding. Il faut faire un pudding avec.
Vous suivrez tout ça sur RFI et on reviendra lundi après-midi pour retrouver et reparler de ces matchs. Pour l'instant, tout de suite, ce que vous attendez, ce sont nos cartons, même sans images.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons, donc. Alors, désolé, on n'a pas de visuel, mais nous vous donnons la parole. Des cartons sélectionnés par Laurent Salerno.
Salut le Foot International, moi c'est Abidine Sanfo depuis Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Je voudrais dessiner un carton vert au Japon qui s'est qualifié hier en battant l'Espagne, aussi en battant l'Allemagne de passage. Bravo Japon, ciao Allemagne, ciao Müller.
Au revoir.
Baye Makumba Diop, Sénégal. Carton vert à Aliou Cissé, El Tactico, pour ses performances à la tête du Sénégal. Finaliste de la CAN 2019, vainqueur de la CAN 2022, meilleur entraîneur africain en 2022. Malgré les critiques, malgré que vous êtes décrié au Sénégal, malgré que vous êtes contesté, tu es toujours concentré et reste zen sur ton sujet. Merci Aliou. Bonne continuation.
Bonjour Radio Foot International, Café des Sports, c'est Merlin Bemba depuis Kinshasa. Je donne un carton vert à l'équipe marocaine pour la qualification en 8e de finale en étant premier d'un groupe où il y avait la Croatie finaliste du dernier mondial ainsi que la Belgique avec sa génération dorée. Le football africain en avant.
Salut l'équipe de la Radio Foot International, salut Anne Gasny. C'est Gianni Mopi, la chauffeur de taxi depuis la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Moi je donne carton rouge à Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, pour ne pas avoir titularisé Kazri lors des 2 premiers matchs de la Coupe du Monde. Carton rouge à Jalel Kadri.
Radio Foot International, Camille Soko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert, c'est à l'arbitre française Stéphanie Frappard qui a assuré pour sa première à la Coupe du Monde. Et j'espère que l'arbitrage féminin va continuer à grandir. Ciao.
Bonsoir Radio Foot, c'est Alpha Modou Lélema depuis la Guinée. Commencez, je donne un carton vert foncé au Lion de la Teranga et au Lion de l'Atlas pour leur brillante qualification pour les 8e de finale. Je leur félicite et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition.
Bonsoir la Radio Foot International, c'est Ismaël depuis le Cameroun. Donc je donne mon carton rouge au staff des Lions indomptables pour avoir l'intention de gâter la carrière de ce jeune gardien du Cameroun, André Onana. Il fallait régler les choses entre eux là-bas. C'est vraiment dommage.
Moi, c'est Jimmy Kine depuis Yaoundé. J'adresse mon carton rouge à Eden Hazard. Il est censé unir l'équipe, pas la diviser. Ce n'est pas normal selon moi. Donc, ce carton rouge, il est vraiment rouge avec Eden Hazard. Merci à vous, bonne émission.
Bonjour à Radio Foot International. Je vous appelle depuis Abidjan. Moi, c'est Kassoum Diabaté. Mon carton d'aujourd'hui est un carton vert attribué à Xavi Barré pour sa brillante intervention l'autre jour où il y avait une émission spéciale concernant les cartons. Il a donné un carton rouge au corps arbitrage concernant les favoritismes sur les pénalties attribuées aux stars. Et il continue encore, ces mêmes arbitres continuent encore de donner ces faux pénalties où il n'y avait pas de pénaux. Et je profite pour saluer Xavier Barré pour sa brillante intervention. Je salue Rémi Ngolo, Annie Gassini et tous les membres du Radio Foot International. Bonne émission à vous. Ciao, merci.
Bonjour tout le monde, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne Conakry qui dédie cet après-midi un carton vert, un carton très vert. Alors non pas à un joueur ou à une équipe, mais c'est bien sûr à notre passion commune, le football, le ballon, le curon qui circule et qui continue de circuler. Ce fut le cas hier au Qatar, dans une poule composée de l'Allemagne, de l'Espagne, du Costa Rica et du Japon. On a vécu des moments extraordinaires, des moments inoubliables, exceptionnels devant notre télévision. Et merci aussi à l'équipe de Radio Foot International qui nous fait vibrer autour de ces rendez-vous footballistiques. Merci, bon café de sport et surtout, bon week-end. Ciao.
Merci à vous tous pour vos cartons, c'est toujours gentiment préparé et toujours envoyé à temps et qui nous plaisent tant. Franck Simon, avez-vous de quelle couleur est votre carton?
Il est vert, il est pour le double cas. Khalidou Koulibaly.
Comme le maillot de Rémi.
Oui, Khalidou Koulibaly, capitaine des Lions de la Teranga, leader, inspirateur et buteur pour la première fois de sa carrière en sélection contre l'Équateur. Félicitations aux Lions de la Teranga à l'encadrement et au double cas, Khalidou Koulibaly.
Rémi Ngono, quel est votre carton? La couleur d'abord.
Moi aussi, je donne le
carton. Vous avez du vert, du jaune et du rouge sur votre
maillot.
Oui,
du vert. Ils sont déjà passés là, les Lions. Oui, les Lions de la Teranga, mais surtout, j'apprécie la cohésion qui est dans ce groupe-là. Et particulièrement, je donne dans ce carton vert à Nicolas Jackson. C'est un nouveau arrivé dans cette équipe-là. Et justement, il a eu des embrouilles avec Foudébal. Oh, et finalement, il s'est dit, avec son coéquipier, parce qu'ils ont failli d'ailleurs en venir aux mains, il a compris qu'il était fautif dans cette embrouille-là. Avant même de partir dans les vestiaires, pendant les entraînements, il est revenu voir son partenaire. Il s'est humilié, il a demandé pardon. C'est ce qu'on demande dans un groupe, et non comme par exemple un certain Onana qui est au-dessus du groupe et qui croit que lui, il ne peut jamais présenter ni les excuses à ses supérieurs hiérarchiques, aux encadreurs ou encore à d'autres joueurs. Voilà l'humilité du Sénégal qui amène le Sénégal au sommet.
Xavier Barré, quelle couleur?
Oui, vert aussi, vert à un continent dont on n'a pas beaucoup parlé. On a salué les performances de l'Afrique, mais je voudrais aussi souligner celle de l'Asie.
Bien sûr.
Avec le succès de la Corée du Sud, la qualification de la Corée du Sud aujourd'hui, celle du Japon et aussi celle de l'Australie dans le groupe de la France, qui était totalement inattendue puisque l'Australie fait partie de l'Asie au niveau football. Et donc, ce sont un continent où il y a des éliminatoires extrêmement exigeants, 20 matchs pour se qualifier. Voilà. Et donc, on a vraiment des équipes qui arrivent très compétitives. Peut-être une piste à étudier pour que l'Afrique ait des équipes encore mieux préparées lors des prochaines phases finales.
Le carton de Radio Foot International est vert et il va au bleu, hein, ça va bien ensemble, mais surtout aux joueurs de l'équipe de France qui cet après-midi à Doha ont porté le maillot de l'équipe de leur début pour encourager et faire un clin d'œil au football amateur, la pépinière du football français. Nous mettrons la photo sur notre page Facebook. Nous avons par exemple Jules Koundé qui portait les couleurs de Fraternel de l'Andiras. C'est un club dans le sud-ouest. On a aussi Steve Mandanda et Ousmane Dembélé qui, eux, portaient celui de l'ALM Évreux. Ouais, et voilà, chacun...
Club normand, la Madeleine.
Exactement, ouais. Chacun a fait un petit clin d'œil comme ça au club de ses débuts et à ses éducateurs. C'est la fin de...
Déjà
ce Radio Foot International de ce Café des Sports.
On va faire une heure de plus.
Hein, on devrait, hein, on aurait tellement de choses à dire. C'est aussi la fin de la semaine.
C'était calme ce soir.
C'est aussi la fin de la semaine. C'est peut-être parce que la Coupe du Monde nous exige beaucoup de nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On était le soir, alors j'espère que vous vous y retrouvez avec nos émissions qui concluent les journées de Coupe du Monde. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on sera là à 17h10, 16h10 en temps universel lundi. Et ensuite, on sera là le soir. Tout dépend des matchs que nous diffusons sur l'antenne de RFI. Merci à tous et un coucou du côté de Doha à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et à nos camarades qui continuent ce week-end.